À quoi tu penses?
Tu sais.
Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible.
C'est monstrueux.
Et c'est toi en plus.
Ah ouais?
Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, merci d'être au rendez-vous de votre séquence midi. Au menu du jour, la quinzaine de mars contre le racisme et les discriminations. Ce sera en seconde partie d'émission. Et puis comme tous les mercredis, il y aura aussi votre rendez-vous cinéma. Comme chaque jour, vous retrouverez votre agenda, vos découvertes musicales. Mais tout de suite, je vous propose d'accueillir l'un des candidats à l'élection sénatoriale partielle dans la Vienne, Cyril Sibert. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui, comme les différents candidats qui ont bien voulu se présenter donc à notre micro. Vous êtes président des maires ruraux de la Vienne et maire de Schoenwald et aussi vice-président du Grand Châtellerault. On va parler un petit peu de votre parcours personnel et professionnel. Qui êtes-vous pour nos auditeurs et auditrices ?
Eh bien, Cyril Sibert, donc j'ai 51 ans, je suis commercial dans la vie professionnelle puisque j'ai toujours souhaité, c'est vraiment une volonté de ma part de garder un pied dans le milieu professionnel et je suis commercial dans une entreprise pour distribuer de l'alimentaire dans les restaurants du département de la Vienne.
Et comment vous êtes arrivé à la politique ?
Mais écoutez, moi j'ai assisté à une réunion publique à l'époque, en 1997 à Châtellerault, puisque j'habitais Châtellerault, il y avait Edith Cresson, il y avait Lionel Jospin, qui était venu parler du PACS et des 35 heures, et puis ça m'a causé dans mon histoire personnelle. Du coup, je suis venu à des réunions, j'ai adhéré, je me suis formé, c'était à l'époque où le Parti Socialiste était un grand parti, où on formait les militants, donc j'ai pris tout ce que je pouvais prendre d'informations, de positifs, et donc ça m'a forgé l'homme que je suis aujourd'hui, et j'ai eu plusieurs mandats électoraux.
Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous décidez d'aller plus loin, on va dire, et de quitter un petit peu le local pour le national ?
Ben écoutez, d'abord il y a une élection sénatoriale partielle, et je pense qu'il ne faut pas oublier M. Yves Boulou, le sénateur qui a démissionné pour raison de santé. On parle souvent de bienveillance, nous les maires, on fait du lien entre les personnes et j'ai trouvé que dans certaines candidatures un peu rapides, ça a manqué un peu de décence. En ce qui me concerne, étant président des maires ruraux de la Vienne, je fédère autour de moi, autour d'un projet et j'aide et j'accompagne les maires du département de la Vienne qui m'ont proposé, qui m'ont d'ailleurs questionné, savoir si je souhaitais ou pas aller à cette élection-là. Après, avec un temps de recul, j'ai pris le temps de réfléchir avec mes équipes. Eh bien, j'ai accepté de me présenter à cette élection parce que je crois qu'il faut être en capacité de représenter tous les grands électeurs du département de la Vienne. C'est pourquoi ma suppléante est du Grand Poitiers.
Justement, parlons-en. Donc, Catherine Bourgeon, comment s'est fait votre binôme ? Quelle est la complémentarité ?
Eh bien, d'abord, c'est une belle rencontre. On s'est rencontrés, elle a été élue avec le regretté Mathias Agoun sur le canton de Poitiers 4. Puis c'est quelqu'un d'une grande expérience qui a été directrice d'EHPAD, de maison de retraite, qui est élue à Mignet-le-Beauvoir. Et donc, elle est également conseillère départementale. Et chez nous, on est vraiment très complémentaires. D'abord, on a une fibre centre-gauche, tous les deux. Donc, on est plutôt d'accord sur cette partie-là. Et puis surtout, elle représente la partie urbaine, le Grand Poitiers. Nous sommes le seul binôme qui représente toutes les communes du département. Moi, j'incarne la ruralité. Je suis également vice-président du Grand Châtellerault. Et Catherine va représenter le Grand Poitiers et les communes périurbaines.
Alors vous représentez effectivement le centre-gauche. Comment vous affirmez cette étiquette politique ?
Moi, vous savez, je suis quelqu'un qui n'a jamais rien caché, donc, que ce soit dans sa vie personnelle, professionnelle et politique. Je trouve justement qu'il y a un peu de flou en ce moment dans cette élection départementale, parce que d'ailleurs, je suis le seul à dire dans quel parti je suis. On a le droit d'aimer Jean-Luc
Mélenchon. Le parti radical de gauche.
Voilà, on a le droit d'aimer Jean-Luc Mélenchon, mais il y en a, ils le cachent, ils n'osent pas le dire, qui sont à l'extrême gauche, où c'est un petit peu dommage, un petit peu flou, comme on a le droit d'apprécier Emmanuel Macron, mais dans ces cas-là, il faut le dire. Et puis également, c'est important de dire dans quel groupe politique on va siéger, puisque quand on est élu au Sénat, c'est comme à l'Assemblée nationale, on siège dans un groupe. Tous les autres candidats ne le disent pas dans quel groupe ils vont siéger. Alors, moi, ma grand-mère me disait toujours, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Je pense qu'il y a un loup, il ne faudrait pas que les électeurs aient la gueule de bois le lendemain de l'élection sénatoriale. Moi, je vais siéger au groupe RDSE, qui est le plus ancien groupe parlementaire au Sénat. Et ce que j'aime dans ce groupe, ce qui fait sa spécificité, c'est que les élus, ce n'est pas les partis politiques qui leur disent « faut voter oui, faut voter non » ou « faut se mettre à hurler comme à l'Assemblée nationale ». Ça, c'est complètement, c'est ce qui dégoûte aussi les Français de la politique. on est là dans ce groupe pour travailler pour le territoire. J'ai beaucoup travaillé sur le statut de l'élu, avec le Parti radical de gauche, avec les maires ruraux, avec le RDSE. On a prévu un amendement le lendemain de l'élection sénatoriale. Et en tout cas, voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est de travailler pour le territoire.
Donc le RDSE, le Rassemblement démocratique et social européen, quelles sont justement les principales mesures que vous avez envie de porter au niveau national ?
Eh bien, écoutez, déjà, ce qui me paraît important, c'est demain, moi j'invite tous les auditeurs à 19h15 à la salle des Castors à Buxerolles, puisque je vais passer l'après-midi avec Joël Giraud, qui est l'ancien ministre à la cohésion territoriale et à la ruralité, qui a mis en place les maisons France Service. Il y en a 27 dans le département de la Vienne. C'est une réponse au problème que nous avons, nous, en ruralité, mais finalement, ça aide aussi les personnes qui ont besoin de retrouver des conseils en milieu urbain. Donc on passe l'après-midi ensemble, on va faire trois visites de maisons France Service, L'Île Jourdain, Vivonne et Vouillé. Et le soir, on fait une réunion publique au Castor. Donc j'invite tout le monde à venir nous voir, 19h15. Et il y a également Maryse Carrère, qui est la présidente du groupe RDSE au Sénat, qui vient de Paris pour qu'on puisse discuter avec les grands électeurs. Parce que je pense qu'il faut s'étirer un petit peu vers le haut, parler de sujets importants. Le premier sujet que nous, on va mettre sur la table, c'est bien sûr le statut de l'élu, qui commence à enfin être débattu. On a prévu un amendement, on l'a écrit à tous les grands électeurs. Le problème des écoles, on est complètement dans l'actualité également. La santé, j'ai interpellé la ministre de la Santé lorsqu'elle est venue à Poitiers il y a 2 semaines. Et puis se battre pour le territoire. Et vous savez aussi ce qui nous embête, nous, dans la Vienne. On n'est pas des anti-progrès par rapport aux zones, tout ce qui va être l'éolien ou les panneaux photovoltaïques. Mais les éoliennes, il y en a assez. Je veux dire, dans la Vienne, on est bien pourvu. Je pense qu'il y a un moment, il faut que nous, les sénateurs, en tout cas, on soit capable de dire, d'accompagner les communes en disant, on va privilégier des panneaux photovoltaïques que de l'éolien. On peut aussi en mettre à l'île de Ré, l'île de Léron, puisque tout est négocié à la grande région Nouvelle-Aquitaine. Moi, je ne vois pas pourquoi c'est toujours nous, la Vienne, qui sommes un petit peu les mal vus de cette grande région. Donc, il faut qu'on puisse accompagner les élus dessus, être un soutien, et puis j'ai la capacité également, moi, de travailler avec l'ensemble des élus du département. J'étais conseiller régional pendant 10 ans, adjoint au maire de Châtellerault. J'ai 51 ans, mais j'ai déjà beaucoup d'expérience, et je suis également en lien très étroit avec le sénateur Bruno Belin, parce qu'il faut pouvoir travailler ensemble. Alors effectivement, pour l'extrême gauche, pour eux, c'est impossible. Mais moi, je veux dire, au contraire, si on me dit que c'est pas bien de travailler avec lui, je me dis que je suis dans le vrai. Parce que quand on veut défendre un territoire, défendre une commune, c'est tous ensemble qu'on peut travailler. Un homme seul, une femme seule qui vous dit « moi tout seul je vais y arriver », partez en courant, faut pas l'écouter. C'est vraiment, il faut additionner les compétences et travailler tous ensemble dans l'intérêt du territoire de notre beau département de la Vienne.
Donc quand même 6 candidats pour cette élection sénatoriale partielle, comment vous pensez, vous et votre binôme, faire la différence ?
D'abord, on a le cumul de l'expérience. J'ai été conseiller régional, Catherine est conseillère départementale, adjointe au maire d'une grosse commune, elle est conseillère départementale, je suis président des maires ruraux. Et puis, on n'est pas clivant, c'est-à-dire qu'on est en capacité de travailler avec tout le monde. On voit aujourd'hui, il y a des couloirs très... Bon, il y a la NUPES à Paris, ils disent tous... Tous les dirigeants nationaux vous disent « la NUPES est finie, on se démarque de Jean-Luc Mélenchon ». Bon, finalement, ici, c'est complètement l'effet inverse. C'est pas tellement crédible. Nous, on est là plutôt pour rassembler, travailler sur un projet et avec tout le monde. On n'exclut personne, mais on veut travailler dans l'intérêt du territoire et on a l'expérience pour le faire.
Alors, vous êtes maire, je le disais, de Schoenvel. Ça veut dire, si vous êtes sénateur, abandonner ce mandat. Comment vous voyez la suite ?
Mais évidemment, ça sera un crève-cœur, parce que le mandat de maire, c'est le plus beau des mandats. Moi, j'ai eu la chance d'avoir déjà plusieurs mandats. Bon, on s'organisera, il n'y a pas de souci. En tout cas, je resterai conseiller municipal de Schoenvel. C'est le plus beau village du département de la Vienne. On y vit bien, c'est un village très tolérant, très bienveillant. On y organise les fiertés rurales, on organise plein de choses. Moi, voilà, je resterai bien sûr dans ce beau département. Et puis, on a la chance, nous, quand même, ici, dans le département, on n'est qu'à 1h15 de Paris en TGV. Donc, c'est quand même... On est plutôt privilégié par rapport aux autres députés ou sénateurs qui ont des temps de transport beaucoup plus longs.
Merci beaucoup Cyril Sibert, donc qui est candidat à l'élection sénatoriale partielle au nom du Parti radical de gauche. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Les autres candidats, donc Marie-Jeanne Bellamy, Xavier Monet, Karine Desroses, Frédéric Texier et Gisèle Jean. Vous pouvez retrouver les podcasts sur notre site radio-pulsar.org. Côté musique, je vous propose de découvrir Lee Rose, son titre Musique sale, elle est métisse d'origine franco-burkinabé et elle a un féminisme très personnel.
faire de la musique sale, mon rap est propre, je le revendique. Tu parles sur moi, ouais tu parles mal, je te parle d'amour, je le revendique. Rap ne perce que quand il est sale, mon rap est clean, je le revendique. Ça parle de baisse, ouais ça parle mal, je te fais l'amour, je le revendique. Les meufs ne sont pas que des chiennes, en tout cas certainement pas les tiennes. Moi je focus sur les gens que j'aime, ouais les focus moi je les enchaîne. Les meufs ne sont pas que des chiennes, en tout cas certainement pas les tiennes. Moi je focus sur les gens que j'aime, ouais les focus moi je les enchaîne. T'arrives en Lamborghini, tu repars en Lambeau. T'as pas choisi les bonnes bitches pour venir faire le beau. Tu crois que t'es trop frais mon gars, ouais tu crois que t'es trop chaud. Mais des mecs comme toi on les calcule pas, non t'as pas le niveau. Génération d'empotés éduqués au porno. Tu crois que t'es un bon coup, tu trouves même pas les clitos. Rien à foutre de tes billets et que les michetonneuses qui vont mouiller. Moi je reste jean, je vais pas flancher et j'en représente des millions. Ils veulent tous faire de la musique sale. Ils veulent tous faire de la musique sale.
À quoi tu penses?
Plus ça. Il est vrai qu'il existe des disques.
Oui, vous pouvez essayer.
Ah, les étoiles en plus.
Ah ouais?
Sans doute, mais lesquelles?
Et notre second sujet du jour, je vous le disais, c'est la quinzaine de mars contre le racisme organisée par le Toit du Monde. Et pour en parler, on accueille aujourd'hui Isabelle Lucas. Bonjour.
Bonjour.
Et Naïli, dont j'ai oublié le nom de famille.
Naïli Battini.
Naïli Battini, merci à toutes les deux d'être là. Vous êtes animatrice socio-culturelle pour l'association Le Toit du Monde. Et pour nous présenter donc cette quinzaine de mars contre le racisme et les discriminations, ça fait déjà pas mal d'années hein, que Le Toit du Monde organise, c'est même l'événement phare du Toit du Monde, enfin l'un des deux événements phares du Toit du Monde.
Oui, l'un des deux, puisque l'autre événement, c'est le Festival du Monde en Fête qui se déroule en mai. Et la quinzaine de mars contre le racisme a commencé en 1991 avec le partenariat avec le rectorat autour d'interventions en milieu scolaire sur le racisme et les discriminations. Donc nous menons toujours ces interventions en milieu scolaire. Pour nous, c'est vraiment très important. Et parallèlement, depuis plusieurs années, on mène une programmation tout public. À Poitiers, voilà.
Pourquoi, alors, depuis 1991, on est en 2024, pourquoi pour vous ça a toujours un intérêt, une importance de faire cette quinzaine contre le racisme et les discriminations? C'était que racisme au départ, ça a pris une ampleur plus grande aujourd'hui?
Non, il y a toujours eu, ça a toujours été le racisme et les discriminations. Alors après, vous, enfin si, pour celles et ceux qui connaissent le Toit du Monde, nous on est... On travaille plutôt autour des discriminations liées à l'origine, puisqu'on est un centre qui accueille des migrants. Donc on travaille plus autour des migrations et en effet du racisme. Mais il nous est arrivé de traiter des discriminations liées aux inégalités hommes-femmes, des discriminations aussi autres. Mais c'est vrai que la spécificité du Toit du Monde, c'est plutôt les discriminations liées à l'origine ethnique et le racisme, oui.
Et donc, en 30 ans, il faut toujours faire de l'éducation et de la sensibilisation à ces questions.
Mais oui, il y a toujours du boulot, malheureusement.
Il y a toujours du travail.
Oui, oui.
Alors, cette année, vous avez décidé comme thématique de vous intéresser au racisme à travers l'art. Comment est venue cette idée?
Eh bien, en fait, puisqu'on s'intéresse aussi à différentes formes culturelles au Toit du Monde, et d'observer qu'il y a de nombreux artistes qui utilisent leurs œuvres d'art comme un moyen de lutter contre le racisme. Et on s'est dit, pourquoi pas, on n'avait jamais traité cette question, art plastique... art et lutte contre le racisme. Et donc, on a choisi ce thème et donc on va l'utiliser à travers la peinture en milieu scolaire, à travers de différents artistes plasticiens. Et puis ensuite, tout public sur différents événements artistiques.
Alors justement, tout ce travail que vous faites avec les scolaires, est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler? Quelle forme ça prend? Qui sont les scolaires qui en bénéficient?
Donc on fait un appel aux différentes écoles de la Vienne. Alors cette année, on a beaucoup de demandes. Alors on imagine que c'est ce sujet-là qui a plu aux enseignants. Donc malheureusement, on ne peut pas répondre à toutes les demandes puisque on est salariés bénévoles, mais pas assez nombreux pour intervenir dans toutes les classes. Donc on intervient aussi bien à Poitiers qu'en milieu rural. Et... on aime beaucoup, même si ça prend plus de temps, mais on aime beaucoup aussi aller dans des écoles qui sont éloignées du milieu urbain, où il y a moins de mixité sociale et culturelle, où les représentations des étrangers sont différentes aussi par rapport aux élèves, parce qu'il y a moins de mixité sociale et culturelle. Donc c'est vraiment toujours très riche d'aller aussi bien dans des écoles. Là, on va aller à Lusignan, on va aller à Saint-Jean-de-Sauve, on va aller voilà, dans différents villages. Et puis, Poitiers, c'est centre-ville et des quartiers périurbains.
Et donc une vingtaine de classes. Hein,
oui, voilà, on quand est même. Sur une vingtaine de classes. Ouais.
Quand même si vous n'avez pas pu répondre à la demande de tout le monde. On va parler un petit peu aussi du programme grand public. Vous avez pas mal de partenaires hein, qui se joignent au programme et qui vous permettent d'être dans différents lieux.
Oui, de toute façon, le Toit du Monde, en général, on travaille toujours en partenariat. C'est Candice est là du Dietrich, là, qui en face de moi. On travaille très souvent avec le Dietrich. Alors, cette année, pas sur la quinzaine, mais bientôt sur le Monde en Fête. Mais en effet, on aime travailler avec différentes institutions, associations culturelles. Et cette année, on va travailler avec le Miroir, donc, qui dépend de l'École des Beaux-Arts. On va travailler avec Unicité, avec la Maison des Trois Quartiers et avec la Fanzinothèque, voilà, sur différents événements. Donc, mais pour nous, c'est important aussi de sortir de Toit du Monde. Et puis, sans les partenaires, voilà, ça serait beaucoup moins pertinent, je pense, de mener cette action. Oui.
Alors, on va détailler un petit peu le programme. Ça commence jeudi 14 mars, justement au Miroir. Vous avez décidé de vous approprier un petit peu ce nouveau lieu à Poitiers. Qu'est-ce que vous avez prévu ?
Alors, le jeudi 14 mars, en fait, le Miroir possède un fonctionnement qui s'appelle Microfolie, et en fait, où on peut voir différentes œuvres artistiques. Donc, ils ont un fonds extrêmement important. Et donc, les médiateurs culturels du Miroir vont décrypter différentes œuvres artistiques, donc de peintres qui ont justement lutté contre le racisme, notamment Norman Rockwell ou Banksy. Et donc, c'est aussi s'attacher à des tableaux et voir comment justement cette œuvre a été un moyen de lutte contre le racisme. Donc, c'est ouvert à tout public, c'est gratuit, et puis c'est à partir de 14 ans. On peut commencer à aller voir ces œuvres à partir de 14 ans. Ça dure une heure et je pense que ça peut être vraiment, vraiment riche.
Le mercredi 20 mars, c'est à travers le cinéma donc, que vous abordez cette thématique, et là, c'est effectivement avec Unicité.
Oui, là, c'est Unicité qui nous a proposé un ciné-débat autour d'un court-métrage, Le Cercle d'Ali, qui raconte l'histoire d'un jeune Afghan qui va préparer son audition à la Cour nationale du droit d'asile, donc qui a l'intention de devenir demandeur d'asile. Donc, ciné-débat autour de ce personnage afghan. Évidemment, ça débouchera sur une discussion autour de la demande d'asile et tout le parcours qu'ont les personnes qui ont envie d'être réfugiées en France. L'entrée est libre et même chose, ça peut être à partir de 14 ans et après public adulte.
Alors, le jeudi 21 mars, ce sera cette fois à la Maison des Trois Quartiers. Et là, c'est une conférence gesticulée. Peut-être qu'il faut expliquer un petit peu en quoi ça consiste.
Une conférence gesticulée, c'est en fait c'est une personne qui va nous raconter... alors, par rapport à ce spectacle qui s'appelle « J'aurais dû m'appeler Aïcha » ou « L'identité française », c'est Nadège Devaux qui est comédienne et qui va nous raconter sa double culture qui est née à Vaux-en-Velin, donc d'où Nadège Devaux, et qui est d'origine algérienne. Et une conférence gesticulée, c'est une conférence théâtralisée qui vulgarise en fait un sujet au lieu d'avoir une conférence plus institutionnelle. Et voilà, c'est aussi comment on peut s'intéresser à un sujet qui peut être complexe et... mais aussi avec humour, avec plein d'anecdotes, et puis grâce à une personne qui a connu en fait cette double identité, comme énormément de personnes en France aujourd'hui. Et c'est voilà, c'est pas toujours simple par rapport au regard des autres.
Et le vendredi 22 au petit matin, c'est votre rendez-vous du Toit du Monde, papotons sous le toit.
Oui, c'est un rendez-vous qu'on a toujours au Toit du Monde toute l'année. Et puis on en met un sur la quinzaine de mars, donc toujours sur, là ça sera donc sur le thème la culture et les arts. qui est animé par le secteur famille du Toit du Monde, qui regroupe des personnes d'origine diverse. Et donc, c'est vraiment des échanges interculturels. C'est extrêmement riche parce que, en fait, là, ça va être le rapport à la culture, aux arts, la lutte contre le racisme, mais c'est aussi comment ça se passait dans le pays d'origine, quelles sont les différences aujourd'hui avec la France, est-ce que les habitudes ont changé pour les personnes, etc. Donc, c'est une rencontre qui se passe au centre Sèvres de Saint-Éloi.
Et puis une exposition Gong Créole, le vernissage c'est le vendredi 22 mars et ça va durer jusqu'au début juin.
Oui, cette expo est jusqu'au 1er juin, donc c'est le vernissage d'une petite maison d'édition et d'un label de musique franco-expérimentale qui sont basés à Nantes. C'est une proposition qui a été faite par la Fanzinothèque. Et donc, voilà, on s'est associé à ce vernissage autour de la culture caribéenne, et parce qu'on pensait que ça rentrait bien dans le thème de la quinzaine.
Et donc ça, c'est à la Fanzinothèque. Il y a aussi des lectures en médiathèque. Vous êtes partenaire avec les médiathèques de Poitiers.
Oui, ça fait plusieurs années qu'on travaille avec le réseau des médiathèques de Poitiers, donc il y a des lectures pour les scolaires et extrascolaires. Donc c'est vraiment toujours un plaisir de travailler avec les bibliothécaires de la médiathèque François Mitterrand, mais aussi des bibliothèques des Trois Cités, de la Blaiserie, de Média Sud, etc. Et donc il y a des lectures d'albums jeunesse. Et nous, on intervient sur le débat qui suit auprès du jeune public.
Merci beaucoup Isabelle Lucas, donc animatrice socioculturelle au Toit du Monde. Merci d'être venue présenter cette quinzaine de mars contre le racisme et les discriminations, donc qui débute le 14 mars. Et puis, toutes les informations sont sur le site du Toit du Monde.
Oui.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
On accueille tout de suite Candice Mottet-Debert, médiatrice au cinéma Le Diétrice. Bonjour Candice.
Bonjour tout le monde.
Et alors, tu voulais commencer par un pronostic pour les Oscars ?
Eh oui, tous les mois de mars au cinéma Le Diétrice, on fait nos pronostics pour les Oscars et à chaque fois on a presque raison. L'année dernière, le film d'Amélie, ma collègue, avait gagné, le mien n'avait rien remporté. Mais cette année, on parie sur Pauvre créature, que vous pouvez encore voir au Dietrich. On parie aussi sur La zone d'intérêt, hein, qu'on garde encore quelques séances. Et puis bien sûr, on reprend un petit peu Anatomie d'une chute pour permettre peut-être aux derniers Français et Françaises qui ne l'ont pas encore vu de venir le découvrir. Donc ça, vous pourrez les voir jusqu'au 15 mars au Dietrich. Mais on a surtout parié sur la sélection des meilleurs films étrangers. Et cette fois-ci, nous, on a misé sur le film allemand, donc qui représentera l'Allemagne aux Oscars cette année, qui s'appelle La salle des profs, qui est un drame et un thriller psychologique réalisé par Ilker Katak, qui est un réalisateur d'origine turque. Hein, la Turquie et l'Allemagne ont de grands liens et la plupart des réalisateurs allemands qui dépassent les frontières sont d'origine turque. Alors, le synopsis. Alors qu'une série de vols a eu lieu en salle des profs, Carla Novak mène l'enquête dans tout le collège où elle enseigne. Très vite, tout l'établissement est ébranlé par ses découvertes. Je ne vous en dis pas plus, bien sûr, on est sur un travail de thriller psychologique un peu implacable. Vous savez, quand on met un doigt dans un engrenage et qu'on n'arrive plus à s'en sortir malgré toute la bonne volonté du monde. Attention, ce film n'est pas choquant, n'est pas dérangeant, il traite juste uniquement des sujets qui peuvent se développer dans un microcosme où enfants, adolescents et adultes cohabitent et où vous allez voir tous les vices et tous les mensonges qui peuvent résider entre collègues ou entre professeurs, élèves entre eux. C'est assez brillant, c'est très bien écrit, ça nous rappelle bien sûr La Vague, hein, qui est un film allemand qui avait bien marqué le milieu des années 2000, qui est souvent remontré en classe, notamment pour les étudiants en allemand. Alors, le dilemme moral dans La salle des profs s'est tourné comme un film à suspense, voire un film d'action. Toutes les certitudes volent en éclats lorsque le personnage de Carla perd peu à peu le contrôle. On vous incite vraiment à venir le voir parce qu'il est interprété par Léonie Benesch, qui est une jeune actrice allemande qu'on a notamment pu voir dans The Crown, la série Netflix, et également chez Michael Haneke. Donc là, qui explose, hein, qui porte le film sur ses épaules, c'est quasiment la personnage, elle est tout le temps à l'écran. C'est une étude sociétale et le polyester des critiques qu'on aime beaucoup nous disent d'une redoutable efficacité. On est d'accord, on a montré le film à nos étudiants qui ont adoré le film. C'est dès aujourd'hui au cinéma Le Dietrich et tout le mois de mars.
Et tu voulais nous parler d'un événement?
Oui, lundi prochain, le 11 mars à 21h, séance unique. d'un des meilleurs films de David Cronenberg, si ce n'est son meilleur film, La Mouche, hein, 1986, avec le grand Jeff Goldblum, qui à l'époque, à ce moment-là et à son prime de sa carrière, c'est un acteur qu'on aime beaucoup, bien sûr, encore aujourd'hui. Alors La Mouche, c'est l'histoire de Seth Bundle, qui est un jeune biologiste très doué. Il va mettre au point l'invention de la téléportation. Il fait des essais peu convaincants sur des animaux, et à un moment, il se dit « je vais essayer moi-même ». Sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est que quand il rentre dans la cabine, une mouche est avec lui. Et je vous laisse imaginer la suite. C'est un film de science-fiction fantastico-horrifique. C'est un film sur la monstruosité, sur la question de la monstruosité extérieure et intérieure. Il fait partie de notre ciné-club annuel Les Trésors de Marlène, qui était cette année sur le thème double et doublure. Donc on s'est dit, c'est l'occasion. Le film sera présenté par Alexandre Moussa, comme chaque séance de ciné-club, qu'on aime beaucoup. Et cette fois-ci, il sera accompagné de Francisco Ferreira, un professeur d'art du spectacle bien connu qui intervient souvent chez nous, qui est spécialiste de l'œuvre de David Cronenberg. C'est donc l'occasion de voir ou de revoir ce grand classique, un des meilleurs films de science-fiction et des années 80 qu'on aime beaucoup. Et c'est en version restaurée 4K. Voilà, c'est lundi 11 mars à 21h.
Merci Candice pour toutes ces recommandations. On te retrouve la semaine prochaine pour d'autres rendez-vous cinéma. Demain, dans Séquence Midi, on parlera des difficultés du bar que vous connaissez bien au centre-ville, l'envers du bocal. Et puis, on parlera aussi bassine avec Bassine Non Merci. Et pour vos autres idées sorties, voici votre agenda. Le spectacle Je suis Marguerite Duras, c'est un spectacle solo de clown et une interview exclusive de Marguerite Duras. En fait, l'ambition, c'est de faire vivre et revivre, rire et rerire, penser et repenser Marguerite Duras. C'est à la M3Q et donc c'est à 20h30. Une heure, un monument, c'est à 15h et le palais, donc au palais, le palais est un remarquable ensemble d'architecture civile médiévale en France, résidence des comtes du Poitou, duc d'Aquitaine, puis palais de justice. Il avait passé quelques-uns des personnages illustres de l'histoire de France. Ça dure une heure et vous pourrez peut-être accéder à la tour Maubergeon. En tout cas, la présentation inclut l'exposition de l'ours, le cygne et le crocodile. Rendez-vous au palais. Et enfin, à Gamapéro, rendez-vous donc à 19h à Poitiers. On débranche les instruments, on descend de la scène, mais on s'approche du public et on découvre l'envers du décor. Pendant les Agamapéro, pas de concert, mais un temps de rencontre, interview et session d'écoute d'albums, un public avec un label, un tourneur, un festival. Ce soir, de 19h à 20h, rencontre avec le label Figure Libre Records, en présence du groupe Gablé, qui sera en concert au Confort Moderne le 15 mars. Pour tout ça, rendez-vous chez Canon, c'est rue Ferdinand Foch à Poitiers. Et puis, oui, un petit dernier rendez-vous, si vous voulez jouer, c'est de 18h30 à 23h, c'est au centre d'animation des Couronneries, et c'est pour toutes et tous. Sur Pulsar, à 18h, Jazz Product, à 21h, l'Indépendance, et ce mercredi à 23h, dans Sonokino, le compositeur Jeff Russo. Merci Yann pour la réalisation technique de cette émission. On se quitte avec Marco Clark, il nous propose de la musique traditionnelle de Madagascar, il vient d'une région isolée, sèche et aride au sud-ouest de Madagascar, et il cherche son inspiration dans son environnement. Il se préoccupe des problèmes écologiques de sa région, à l'instar des feux de brousse ou du réchauffement climatique. Voici le titre Nengani Ao. Bon après-midi, à demain. This is our world.